1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
De nouveaux métiers ont émergé pour accompagner la psychogénéalogie comme celle de biographe de vie anonyme et de nouveaux outils se sont forgés, mais aussi des ouvertures se sont faites parmi des thérapeutes, des sociologues, des universitaires qui tous cherchent à traquer avec nous une approche transgénérationnelle de notre histoire. Nous retrouvons la cinquième et dernière partie de cette série consacrée à la psychogénéalogie, Bilan et Avenir, une émission de Bénédicte Niogré réalisé par Claude Giovannetti et diffusé le 27 août 2005.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins.
La psychogénéalogie ou la transmission de la mémoire familiale. Faire de sa vie une histoire. Élaborer son arbre généalogique, découvrir d'éventuels secrets, prendre conscience des liens de filiation, inscrire tous ces éléments dans une lignée, tel est le but de la psychogénéalogie. C'est faire connaissance avec tous les éléments de la mémoire familiale, même ceux dont on ignorait l'existence et dont on était néanmoins porteur à son insu. Mais, de ce bilan, quel élan ! Éclairer le fil de son histoire ne veut pas dire se soumettre à ses méandres. Un espace est créé entre soi et la destinée qui nous est échue. La dernière étape consiste à se réapproprier son histoire, à en faire éventuellement un récit, même intérieur, qui lui donnera sa cohérence et alors choisir. De quoi veut-on hériter ? Que veut-on transmettre ?
Alors, elle s'appelle le Bollingen, du nom simplement du village dans lequel elle est construite.
Michel Cazenave.
C'est une maison pas très grande, dans la mesure où Jung l'a entièrement construite de ses mains. C'est quelque chose qui lui a pris quand même plus de 30 ans à construire. Au départ, c'était simplement une espèce de tour. Au rez-de-chaussée, il y avait la salle à manger, la salle de vie, disons, dans laquelle Jung avait tenu à ce qu'il y ait la cheminée dans laquelle il fasse cuire tous ses aliments. Or, c'est précisément cette cheminée dans laquelle il déclare qu'il rend leur devoir aux dieux lards, aux manes, qui sont les esprits de tous les morts. Et au-dessus, une pièce dans laquelle il faisait quotidiennement ses exercices de yoga. Et les exercices de yoga, c'était en même temps l'induction d'un état modifié de conscience, dans lequel on s'ouvre éventuellement à certaines suggestions de l'inconscient. Et puis, il a terminé cette construction en bâtissant une galerie qui sépare la maison du lac de Zurich. Alors qu'il commence avec une cheminée pour les dieux lards et donc pour les ancêtres, il termine cette galerie face à l'inconscient en tant que tel, et qu'il ressent bien, puisqu'il parle parfois de sentiments quasiment extatiques dans lesquels il ne se sent plus faire qu'un avec la nature, un avec l'eau, précisément avec ce lac qu'il a sous ses yeux, dans lequel il va peindre tous les écussons des membres de sa famille, face à l'inconscient. Donc il commence avec l'inconscient du feu et les ancêtres, et il termine avec l'inconscient de l'eau et les ancêtres. Morts qui nous entourent, que généralement nous ne voyons pas, et qui pourtant sont là présents dans notre vie, et qui sont l'une des structures les plus profondes de notre inconscient.
Mais autrement, Michel, vers la cuisine, les inscriptions. Mais tu vois, il faut le livre.
Non mais attends, il n'y avait pas les photos de la cuisine, parce que la cuisine est tellement sombre.
Il y en a deux, près de la cheminée.
Tu crois ?
Il me semble, oui.
Alors attends, je regarde. Non, parce que je crois que ce sont des peintures qu'il y a à l'intérieur.
C'est pas celle-ci qui est ça, voilà, voilà, c'était à celle-ci que je pensais.
Ah oui, mais attends, l'oracle. C'est à l'extérieur.
Ah oui, c'est dehors, d'accord. Oui,
regarde, parce qu'on
dedans,
on rentre.
Puits. Dedans, on a que le puits, oui, d'accord.
Et tu vois bien comme c'est sombre à l'intérieur.
Oui.
Regarde, tu vois le lac, tu l'as prise à l'intérieur, mais tu ne pouvais pas prendre de photos, hein. C'était trop noir. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, cette cuisine.
Oui, oui.
Effectivement, d'ailleurs, il le dit dans sa lettre. Il n'est éclairé, puisqu'il ne voulait pas d'électricité, il n'est éclairé que par les flammes de la cheminée. Il voulait s'extraire de la civilisation moderne, s'extraire de son métier de psychiatre, pour se retrouver seul vis-à-vis de lui-même et dans une vie purement naturelle. Bon, là, je dirais, c'est quasiment de l'écologie, bien des décennies avant l'heure. Mais il y avait en même temps cette idée. Lorsqu'il épluche ses pommes de terre, il fait cuire ses pommes de terre, il passait plusieurs heures par jour à se faire de la cuisine. Il y a cette idée que dans le culte qui rend au Dieu l'art, à travers cette cheminée, la flamme de la cheminée, le foyer, ce sont les ancêtres, mais ce sont les ancêtres sur 30, 40, 100 ou 200 générations, remontant jusqu'au Moyen-Âge, remontant jusqu'à dans l'Antiquité. Ce dont il parle d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est-à-dire le sentiment qu'on est pris dans une sorte de chaîne éternelle, où on devient simultané précisément à tous les temps, et que c'est l'ensemble de la famille, mais alors au sens le plus large du point de vue temporel qui puisse se concevoir, c'est l'ensemble de la famille qui est convoquée, et où il était dans un dialogue constant avec la continuité, ou de notre point de vue à nous, la discontinuité des morts, si l'on peut dire, mais que d'une certaine façon, ils étaient tous convoqués là. Tous convoqués là. Et plusieurs fois, d'ailleurs, il explique comment, dans certaines périodes, il entendait, vous savez, là, le vieux thème de la Ménielquin, de la horde des morts, et comment, à Bollingen, plusieurs fois, il a entendu précisément cette horde des morts passer. Enfin, la très vieille mythologie est celte et germanique, que l'on trouve aussi dans l'ancienne Rome. C'est-à-dire, justement, cette sorte de prégnance de la mort qui peut seule expliquer la vie. Et de lui donner le sens. Alors c'est là en même temps où le transgénérationnel prend une dimension absolument extraordinaire, parce que ce n'est pas uniquement les générations qui nous ont immédiatement précédés, parce que là il faut être un peu logique. Si nous réglons le problème de notre grand-père, le grand-père a réglé le problème de son propre grand-père, et etc., et etc., et etc. C'est-à-dire qu'à la limite, je dirais, on remonte presque jusqu'à l'aube au moment où il mute à partir du singe. Et c'est donc toute l'évolution humaine, toute l'évolution que nous portons avec nous et que nous sommes bien obligés de négocier. Et c'est là où la notion d'inconscient collectif prend un sens tout à fait particulier et beaucoup plus profond qu'on le croit d'habitude.
Vincent de Gaulle-Jac.
J'essaye de comprendre comment les destinées humaines se tracent au croisement de, à la fois d'un côté, l'action d'un certain nombre de déterminismes, déterminismes sociaux, déterminismes liés à l'histoire familiale, déterminismes liés à l'inconscient, donc au croisement de la sociologie, de la psychanalyse, si on veut, pour aller vite. Donc le social, c'est ce qui produit la fabrication sociale des individus, comment ils sont fabriqués. Le familial, c'est le poids de l'histoire familiale et l'héritage que l'enfant reçoit au moment de sa naissance. Bourdieu dirait le capital social, capital culturel. Et puis, bon, les déterminations plus du côté psychique. Donc l'individu est le produit de toute une histoire et de ses différents facteurs dont il cherche à devenir le sujet. Là, j'ai cité Bourdieu, la sociologie, Freud, la psychanalyse. On pourrait citer Sartre. L'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. C'est-à-dire que l'individu est aussi producteur d'histoire. En termes techniques, les phénoménologues ou les sociologues parlent d'historicité, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'individu de faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. Mais en même temps, dans ce processus-là d'historicité, l'individu produit un récit sur son histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'histoire ? D'un côté, ça veut dire l'histoire au sens où d'entendre les historiens. Le produit d'une histoire, c'est ce que l'histoire nous fait, l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et puis l'histoire, c'est l'histoire aussi, ce qu'on raconte. L'histoire, c'est un récit, en fait. On raconte des histoires. Et quand on dit qu'on raconte des histoires, bah, on raconte à la fois ce qui s'est passé, et en même temps, on enjolive ce qui s'est passé, ou on dramatise. On a une certaine façon de raconter l'histoire. Dubrovski, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'autobiographie, dit, en fait, quand on se raconte, ce sont toujours des racontars. Donc il y a l'histoire telle qu'elle s'est passée, et puis l'histoire telle qu'on la raconte. Et donc, dans ce processus-là, en particulier, dont l'individu cherche à devenir le sujet, d'une certaine façon, en racontant son histoire, il essaye d'en être l'auteur. Et donc, c'est ce jeu de va-et-vient permanent entre l'histoire telle qu'elle nous fait, telle qu'elle s'est passée, et l'histoire telle qu'on l'a fait, telle qu'on voudrait qu'elle se passe. Et donc, j'essaye de comprendre ces va-et-vient entre ce qui est du registre des déterminations et ce qui est du registre de la capacité d'un individu à devenir sujet de son histoire.
Que transmet-on d'autre que des chansons envolées dans la nuit, un parfum flottant sur les traces d'un rire, des images floues, des bribes de récits qui, même pour deux êtres les ayant connus ensemble, ne seront jamais semblables. Les souvenirs sont des nostalgies qui se réécrivent et se transmettent au fil des mots qui les réinventent, et ainsi de suite. Marie Chaix, L'été du sureau. Nathalie Vallée, vous avez inventé finalement votre métier. Vous êtes conteuse de vie anonyme.
Oui, c'est ça. Donc j'interviens auprès d'une population qui est en moyenne à 80 ans. Des gens qui souhaitent écrire leur vie, la laisser comme témoignage à leurs petits-enfants. C'est la première demande qui émerge. Sachant que quand j'ai affaire à des gens un petit peu plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes, c'est souvent un problème de maladie grave. Et donc de notions de fin de vie qui les amènent justement à vouloir transmettre à ce moment-là. Et moi n'étant pas de la famille, donc n'ayant pas d'implication affective, on peut me dire les choses plus facilement parce que je passe dans la vie, je la traverse. Je ne reste pas. Même si ce qu'on partage est très fort, mais je ne reste pas. Ça peut pas être juste une idée de transmission de l'information, c'est tellement pas anodin de raconter sa vie, en plus à un inconnu. C'est la réécrire quelque part, sa vie. C'est peut-être la poser à côté de soi quand on est sur une tranche d'âge un petit peu liée à la fragilité, où on sait pas trop ce qui va se passer, etc. Donc il y a ça, mais c'est aussi la réécrire et la donner à lire comme on aimerait qu'elle soit lue. Alors, on a tous des visions différentes d'un même souvenir, mais c'est beaucoup y réécrire et aussi... Peut-être que ça permet de lever certains secrets de famille. Même si, quand on les a levés en ma présence, ça a été... Bon, bah ça, Nathalie, je vous le dis, mais je veux pas que ça apparaisse dans le livre. Et c'est comme pour un psy, hein, ce sont des choses qu'on me dit quand j'arrive sur le pas de la porte, au moment de repartir. On me dit, ah, au fait, je vous avais pas dit, mais j'ai été violée par mon grand-père à 5 ans. Voilà, alors pourquoi on me dit ça à ce moment-là? Bah c'est parce qu'on peut pas me le dire tranquillement comme ça, c'est tellement lourd. C'est aussi parce que je pars et c'est peut-être une façon de me retenir. Enfin voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller, surtout sur cette génération-là, hein, 80 ans en moyenne. Comment on fait pour gérer ces choses-là? C'était pas une génération d'introspection, c'était une génération de l'action. Il n'y avait pas de retour sur soi. C'était constamment j'avance, il y avait la guerre, il faut manger, il faut se... Bon. Alors nous, on a des difficultés, on a le chômage, on a plein d'autres choses très difficiles, mais on est beaucoup plus en retour sur soi. Et on a des lieux de parole et d'écoute, on a ce qu'on appelle les psys maintenant, même si c'est très vague et qu'on peut mettre plein de gens à l'intérieur. La génération des 80 ans, mes grands-parents, avaient les confesseurs, avaient l'église. L'église n'a plus ce rôle-là maintenant.
Et quand vous êtes l'objet de ces confidences, quand vous dites surtout ne le dites pas, ça veut dire que le secret va rester ?
Alors, ça veut dire que le secret, effectivement, peut rester. Ça veut dire qu'aussi, parfois, il y a des tentatives plus ou moins maladroites pour le faire transparaître à l'écrit. J'ai souvenir d'une femme qui me raconte sa vie. Elle était magnifique, elle avait 92 ans. Elle me parle du Maroc, elle avait vécu un grand amour et elle me racontait son grand amour. Puis moi, je sentais bien confusément qu'il y avait des incohérences, mais c'était très, très confus. Elle noyait bien le poisson, elle me charmait, en fait. J'ai terminé son ouvrage, je lui ai livré un soir vers 18 ou 19 heures, et le lendemain à 7 heures, elle m'appelle. « Nathalie, j'ai relu cette nuit, il faut tout recommencer. Je ne vous ai pas dit la vérité. » Voilà, et cette femme, finalement, a réussi à dire quelque chose qui lui semblait monstrueux, qui concernait le lien entre son fils et son père. Et elle a eu besoin quand même de dire à ce fils unique et à ses trois petites filles qu'il y avait des choses qui s'étaient peut-être pas exactement passées comme on l'avait toujours cru ou comme ça s'était toujours dit dans la famille.
Als das Kind Kind war, war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse? Leute, die Welt nicht böse sind.
En fait, on l'oublie toujours, Jung a été le premier à réellement parler de ce qu'on pourrait appeler un inconscient transgénérationnel. Et je dois dire que même toute sa vie, absolument, et même sa théorisation, son travail, en est totalement irrigué. Puisque la légende courait dans sa famille que l'arrière-grand-père de Jung était le fils naturel de Goethe. Jung le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans sa autobiographie, en fin de compte, je finis le travail que mon arrière-arrière-grand-père, disons putatif, n'a pas terminé. Et nous sommes dans un cas où, à la fois, la légende existe dans la famille, donc ça fait partie du conscient familial, et en même temps, ce n'est jamais tiré au clair, disons, et donc c'est en même temps de l'ordre de l'inconscient. Et on voit comment ça, un pied à la fois dans la conscience, un pied dans l'inconscient. Et toute l'œuvre fondamentale de Jung, que ce soit la notion d'archétype, etc., etc., vient absolument de Goethe, et on voit la récurrence absolue du Faust de Goethe, comme si, précisément, il avait dû s'expliquer toute sa vie avec cette ombre qui planait au-dessus de lui et qui lui avait été léguée par les générations. Et dans la mesure où il est tellement sensible, si l'on peut dire, au fait que les ancêtres déterminent notre propre vie, ce qui est tout à fait étonnant, parce que on sait que Jung s'est beaucoup intéressé à l'ethnologie, particulièrement à l'ethnologie de l'Afrique du Sud, dans un certain nombre de populations, bantous, etc., d'Afrique du Sud, on considère que le même ancêtre se réincarne toutes les quatre générations. Or, Jung, la quatrième génération par rapport à Goethe. Là, je pense qu'il n'y a pas simplement un effet de hasard. C'est bien effectivement cette sorte de retour de l'esprit de l'ancêtre. Mais donc Jung en est tellement conscient que lorsqu'il bâtit sa tour à Bollingen, cette maison un peu alchimique qu'il a voulu entièrement construire de ses mains comme une sorte de manifestation symbolique en fin de compte de ce qu'il vivait, on le voit souvent dans sa correspondance où il explique comment il rend leur culte, dit-il, au dieu l'art de ce foyer qu'il a ainsi construit. Alors évidemment, lorsqu'on le lit comme ça, on n'y fait peut-être pas très attention, mais il faut se rappeler ce que c'est que les lars dans la civilisation romaine. C'est-à-dire que ce sont les âmes des ancêtres, telles qu'elles continuent à revenir, et telles que d'ailleurs souvent il faut les exorciser. Et lorsque Jung donc déclare qu'il rend hommage aux mânes et aux lars, c'est l'ensemble de son inconscient familial qui le travaille de cette manière-là, et ce n'est pas pour rien que dans la quatrième aile de cette tour de Bollingen, on retrouve effectivement les écussons sur plusieurs générations de toute sa famille, comme s'il y avait à la fois cette négociation de la reconnaissance, évidemment, de tout ce qu'il doit à la famille, et en même temps de tout ce qui lui a été transmis et qu'il doit travailler.
Les historiens vous montrent très bien qu'on pense l'histoire, on a représentation de l'histoire en fonction des exigences du présent. Donc quand vous parlez des ancêtres, ça évoque les histoires de famille et ce qu'on raconte sur ce qui s'est passé. Et quand on raconte ce qui s'est passé, en fait, on voit que on produit des scénarios, par exemple pour ses enfants, sur le grand-père, la grand-mère. Et puis dans la famille, on vous a transmis des scénarios sur l'arrière-arrière-grand-père qui était cuisinier de Louis-Philippe ou l'autre qui était forgeron dans un petit village, etc. Et donc, on alimente quelque chose qui est autour de la légende familiale. Et derrière l'histoire des ancêtres, il se transmet des scénarios qui sont, je les appelle, des modes d'emploi existentiels. Par exemple, on va raconter l'histoire du grand-père. On était pauvre, on était dans la misère, et le grand-père, il est parti en Amérique et il a fait fortune. On peut raconter la même histoire en disant on était pauvre, on était dans la misère, puis le grand-père, il est parti, il s'est mis à boire, il a joué, ça a mal tourné, il s'est suicidé. Alors, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il y a le premier scénario qui dit si on est dans la misère, si ça ne va pas bien, si on a des problèmes, on peut partir. Et c'est bien de partir parce que c'est la solution, c'est ça qui va permettre de sortir de l'ornière dans laquelle on est. Alors que le deuxième scénario, il raconte, attention, partir c'est dangereux et quand on part, il risque de nous arriver des ennuis. Alors, quand je dis un mode d'emploi existentiel, c'est-à-dire on va donner aux enfants, aux descendants, des images positives et des images négatives. Des images de qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être un père, qu'est-ce que c'est qu'être une mère. Qu'est-ce que c'est qu'être un mari ou une femme? Qu'est-ce que c'est qu'être un couple? Comment on fait ça? Et puis comment on fait par rapport à la maladie? Comment on fait par rapport à la mort? Par rapport à la folie? Par rapport à l'argent? Par rapport à l'économique? Et donc on transmet, à travers l'expérience des ancêtres, ou du moins ce qu'on en retient en fonction des nécessités du présent, des façons de se comporter d'une certaine façon par rapport à la vie. Ça, c'est les transmissions, je dirais, à travers le récit. Et puis, il y a les transmissions qui sont plus inconscientes. Alors, je ne parle pas de l'inconscient du côté de la psychanalyse, mais il y a un inconscient du côté de la sociologie aussi. C'est quand Bourdieu parle de l'incorporation des habitus. En fait, il dit que c'est toute la trame biographique d'un individu qui se transmet. Et qu'est-ce que c'est les habitus? C'est en fait des façons d'être, des façons de faire, des façons de penser qui sont liées à son milieu social, qui sont liées à ce qu'on appelle l'éducation, la culture, la socialisation. Il parle de schèmes d'appréciation et de perception, c'est-à-dire des façons de se représenter le monde et des façons d'être au monde. Et ça aussi se transmet de façon inconsciente à travers le fil des générations. Et Bourdieu insiste beaucoup sur l'aspect culturel et social de ces habitus, c'est-à-dire c'est lié à des appartenances de classe, qui fait que les habitus dans l'aristocratie sont pas les mêmes que dans la bourgeoisie, sont pas les mêmes que dans les familles de paysans, les familles de fonctionnaires, les familles d'ouvriers, et que y a le rapport au monde est aussi déterminé par la position sociale qu'on occupe.
Les morts sont liés aux vivants par des chaînes qu'on ne voit pas. Tantôt longue et souple, la chaîne qui traverse les événements et les jours. Tantôt tendue à rompre et si courte qu'elle s'inscrit dans la chair. Quand un mort tire sur la chaîne, le vivant qui est à l'autre bout perçoit des étoiles nouvelles, d'autres couleurs, des paysages inconnus. Jean-Pierre Milovanov, le maître des pans.
Quand on raconte son histoire, c'est un jeu, J-E, donc c'est moi, c'est mon histoire. Mais en même temps, c'est moi dans ma famille, c'est moi dans un ensemble. C'est moi dans ma vie professionnelle, par exemple, mais beaucoup dans la famille. Donc ça n'est jamais anodin. La biographie la plus lointaine que j'ai réalisée, c'était à Madagascar. Et donc ce monsieur de 92 ans, déjà un petit peu diminué, me raconte qu'il avait une demi-sœur. Donc en fait que son père avait une maîtresse dont il avait eu une enfant. Et à 92 ans, il révélait enfin ce secret de famille. Et c'était un secret lourd parce que c'est une famille d'origine indienne, pour qui la famille est très importante. Et mon client à l'époque, malheureusement, est mort, on n'a pas pu terminer le travail. C'est son fils aîné comme la tradition indienne le veut, qui a repris les écrits. Et le fils s'est posé la question. Déjà, il m'a dit, je suis très très étonnée de ce que mon père vous a dit. Déjà, grosse découverte. Ensuite, il y a un peu de colère. Pourquoi est-ce qu'il vous le dit à vous? Pourquoi est-ce qu'il ne nous l'a pas dit à nous? On a quand même 60 ans, on est capable de l'entendre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant, quoi? Est-ce qu'on doit quand même réécrire, harmoniser? Est-ce qu'on doit garder ça? Il vous l'a dit, c'est peut-être qu'il voulait qu'on le transmette. Hein. Et j'ai su après qu'ils avaient repris contact avec cette demi-sœur. C'était il y a 3 ans, donc je ne sais pas quels sont les liens aujourd'hui, mais je pense que ça a quand même bouleversé un peu la famille. Alors je pense encore à une autre famille, mais l'histoire d'un jeune homme, trentaine d'années, qui vient d'apprendre qu'il est l'aîné de ses parents, ça c'est clair, mais qu'avant lui, sa mère a été enceinte 6 fois, elle a perdu 6 fois l'enfant, 6 fois c'était un garçon, 6 fois on lui a donné le même prénom. Et ce garçon maintenant qui a 30 ans m'apporte le prénom de ses 6 enfants qui n'ont pas pu voir le jour. Alors après, c'est pareil, dans cette lignée-là, il y a pas mal de problèmes de boissons sur des gens qui portent tous le même prénom. Il y aurait sans doute un travail sur les dates à faire, très certainement aussi. Et puis sur le secret, on ne veut pas prononcer le mot de suicide alors qu'il y en a plusieurs sur au moins 3 générations. Voilà, ce sont des réalités. Et moi, je pense que pour les générations les plus jeunes, c'est aidant de savoir ça. En tout cas, pour ceux qui ont besoin de le savoir. Tout le monde n'est pas dans cette démarche. Mais il y en a toujours un ou deux qui sont pas très très bien, pas très en équilibre, et qui se posent des questions. Ça vaudrait la peine de pouvoir leur dire.
Il dit finalement, nous ne sommes pas que les enfants de notre propre vie, nous sommes aussi les enfants de notre milieu, nous sommes les enfants de toute notre généalogie, et c'est en petit angle tout le poids de la famille que nous portons avec nous, et à la limite même peut-être tout le poids de l'humanité. Il faut se rappeler que Jung avait un aïeul vivant au 19e siècle qui s'appelait lui-même Carl Gustav Jung, et qui était médecin. Et je pense que dans sa vocation de médecin, il y avait précisément cette reprise de dire, d'autant plus, je dirais, lorsqu'on porte les mêmes prénoms exacts que l'ancêtre, de devoir faire la même chose que l'ancêtre, et éventuellement de pouvoir aller le plus loin. Donc je veux dire, on voyait comme il était assailli par le transgénérationnel, d'où tout un certain nombre de ses déclarations, déclarant que sa vie finalement commençait avant lui, et éventuellement continuerait après lui. Puisque évidemment il ne se faisait pas beaucoup d'illusions, il pensait bien qu'il n'aurait pas tout réglé lui-même dans sa propre vie. Et on voit très bien comment les Jungiens, le transgénérationnel, d'une certaine façon, ils l'ont laissé de côté pendant plusieurs décennies jusqu'à ce que ça revienne, comme souvent d'ailleurs, souvent, c'est très curieux avec les idées de Jung, par le biais en réalité de psychanalystes freudiens qui, eux, sont retombés sur cette réalité. Je pense à des gens comme Abraham, comme Thoreau, comme Tisseron aujourd'hui, etc. Et en même temps, ce qui est tout à fait curieux, c'est de voir comme ça, pourtant, insiste tout le temps dans la clinique. Comme si un certain type de clinique, finalement, induisait la découverte de ce genre de phénomène.
Sur un plan clinique et thérapeutique, quelles sont les indications que Jung a données sur le traitement justement et la réintégration du transgénérationnel?
Il n'en a pas donné beaucoup. Je veux dire par là qu'en réalité, c'est dans son autobiographie qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire la façon dont, d'une part, il faut s'interroger, surtout lorsque on se trouve devant une pathologie ou une souffrance psychique dont on n'arrive pas à trouver des causes, et où donc on est obligé de changer de plan, en quelque sorte, et de se demander précisément cette idée qu'a toujours Jung, c'est que nous sommes toujours le maillon d'une longue chaîne. Et donc de se dire, si ce maillon-là est faible et que je n'en trouve pas de cause dans son histoire personnelle, dans quel autre maillon je vais arriver à trouver? Et d'autre part, il y a le travail sur quelle est la légende, quel est le mythe de la famille. Parce qu'il est très rare que ne fût-ce qu'implicitement, c'est pas toujours dit en tant que tel, mais il est très rare qu'une famille n'ait pas une espèce de mythe conducteur, en quelque sorte, qui là aussi court quand même sur plusieurs générations. Donc quel est le mythe familial? Comment est-ce qu'on s'inscrit là-dedans et comment est-ce qu'on est conditionné par ce regard qui est porté sur nous, non seulement par les gens qui nous entourent, mais par les gens qui ne sont plus là. Qui ne sont plus là, mais qui, je dirais, psychiquement, sont toujours présents.
Vient cette mélancolie qui ne cède pas, envahit mon esprit, au point que je crains qu'elle ne finisse par m'emporter au fond d'air lugubre dont je ne pourrai plus sortir. Mais surtout, à quand remonte cet autre chagrin, comme antérieur à ma vie et qui trop souvent m'entrave? D'où viennent ces éclairs de mémoire qui m'échappent et n'appartiennent pas à cette vie? De quel pogrom, de quelle tuerie, de quel abandon dois-je me souvenir? De qui est-on vraiment l'enfant? Françoise Lefebvre, Se perdre avec les ombres.
On est tous confrontés au fait de savoir qu'est-ce qu'on fait de son histoire. Et quand on se pose des questions sur son histoire, il y a de multiples espaces, des multiples formes de travail sur son histoire. Souvent, on pense à la thérapie. Bon. Je voudrais dire très fort ici, pour travailler sur soi, il n'y a pas que la thérapie. Il y a la formation, il y a l'art, il y a écrire son journal, il y a écrire des histoires, raconter des histoires. Créer des choses, bon, il y a des mille façons de faire. C'est pas parce qu'on va mal qu'on travaille sur son histoire. Et le travail de devenir sujet de son histoire, c'est l'existence même de tout le monde. Il y a de multiples façons d'essayer de se donner plus de prise, plus de maîtrise sur sa propre histoire. Alors, j'ai effectivement, moi, créé une approche, une méthodologie pour essayer d'aider les gens qui veulent faire ce type de travail. En créant un espace, j'appelle ça des groupes d'implication et de recherche. Alors, les gens qui viennent faire ça, ils ont toujours en fait deux motivations. L'une personnelle, ça les intéresse et ils ont envie de faire ce travail, mais c'est pas parce qu'ils vont mal, c'est pas parce qu'ils sont objets et que à la sortie du séminaire ils vont devenir sujets. C'est parce que ça les intéresse auprès de d'être prêts à payer pour ça et de s'impliquer pour ça. C'est un vrai travail sur soi. Et en même temps, ils viennent. L'autre motivation, c'est une motivation professionnel ou intellectuel, c'est-à-dire que ça les intéresse de comprendre les processus, de comprendre les mécanismes. Et généralement, c'est les professionnels de la relation. Alors, il est vrai que beaucoup de gens qui sont psychothérapeutes, ou travailleurs sociaux, ou éducateurs, ou psychologues, sociologues, ou infirmiers psychiatriques, ou médecins, ou enseignants, c'est-à-dire tous les gens qui s'intéressent à l'humain, sont évidemment intéressés par cette démarche. Et cette démarche, si j'avais à la définir, je dirais, le cadre n'est pas thérapeutique, mais on travaille sur soi. Mais aussi, dans le groupe, il y a une compréhension collective qui amène à dépasser l'histoire individuelle de chacun pour comprendre des processus et des mécanismes qui nous concernent tous. Et je pense qu'il est très important dans notre société qu'il y ait comme ça des espaces intermédiaires de ce type-là qui existe, entre l'espace universitaire de la recherche, entre l'espace de la thérapie, entre l'espace de la formation, parce que aujourd'hui la société est en transformation profonde. Et une de ces transformations, c'est ce qu'on appelle l'individualisation, c'est-à-dire que chaque individu est renvoyé à lui-même pour produire du sens sur son existence. Je ne sais pas si on peut rentrer dans le débat ici sur la postmodernité, la crise des grands récits, c'est-à-dire l'idée en fait que dans notre société, il n'y a plus de grands récits qui permettent aux individus de donner du sens à leur vie. La religion, on dit que Dieu est mort, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il ne va pas très bien. Il a vieilli, enfin, sauf dans certaines sphères de la société, on voit bien que la pratique religieuse et que la croyance a beaucoup diminué. La science, on dit que la science est en crise. Elle a été facteur de progrès, mais on se rend bien compte aussi aujourd'hui qu'elle pose autant de problèmes et de contradictions qu'elle n'apporte de réponses. La politique, les grandes doctrines politiques, on voit bien aujourd'hui qu'elles sont en crise complète. Donc, cette crise des grands systèmes de sens fait que chaque individu est renvoyé à lui-même pour produire le sens de son existence. Et l'engouement sur les histoires de vie, l'engouement sur la généalogie, l'engouement sur qui, d'où je viens, mes origines, est un moyen d'essayer de redonner du sens. Et donc, ça renvoie à un mécanisme qui me paraît très très important, qui est un mécanisme à la fois au niveau individuel, mais qui joue aussi au niveau collectif. C'est-à-dire la nécessité pour une société de faire un travail sur elle-même pour se transformer. Et que le travail de mémoire, le travail de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire, est un élément déterminant pour se projeter dans l'avenir. C'est ça l'historicité. Or, l'engouement pour les histoires de vie, si les gens viennent pour travailler sur leur propre histoire, c'est parce qu'en fait, ce travail sur leur histoire les aide pour essayer de faire des projets pour l'avenir, de se projeter dans l'avenir et d'avoir le sentiment de maîtriser un petit peu quelque chose de leur destinée. C'est ça l'histoire dont ils cherchent à devenir le sujet. C'est ça le travail du sujet pour essayer d'avoir un peu plus de maîtrise sur d'où il vient pour essayer de mieux comprendre où il va.
Comment relier cette préoccupation du transgénérationnel qu'on voit aujourd'hui vraiment bien réapparaître avec d'autres courants de pensée qui viennent d'autres cultures, que ce soit du chamanisme, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, ou d'Afrique du Sud, ou ce culte des ancêtres qu'on retrouve également en Chine? Quel est finalement le fondement commun à ces différentes préoccupations?
Le fondement commun, je crois, c'est... J'allais dire la croyance, je ne suis pas sûr que ce soit une croyance, ni certainement une certitude, enfin disons l'espérance absolument têtue chez l'humain que lorsqu'on est mort, en réalité on n'est pas vraiment mort. On est mort en apparence, mais on est passé dans un autre type de réalité, on voit très bien, d'ailleurs on voit comment on définit l'humain du point de vue de la préhistoire à partir du moment où il enterre ses morts, c'est-à-dire où il se pose des questions sur l'au-delà. Et dans le chamanisme, en dehors du fait que, évidemment, notre âme peut être emportée par des démons dans le royaume de la surnature, etc., les ancêtres sont toujours présents, puisque le monde est divisé en deux réalités, c'est-à-dire la réalité que nous connaissons, nous, et puis la réalité de l'ensemble des morts qui continue à exister, avec un autre type d'existence que le nôtre, mais qui continue à exister et qui, quand même, ont des liens avec les vivants, d'où le culte qu'il faut rendre aux ancêtres, et le fait que ne pas rendre les cultes aux ancêtres, c'est l'une des choses les plus graves qui soit en Chine, particulièrement dans le taoïsme, et on le retrouve même par exemple dans la pratique de l'acupuncture telle qu'elle dérive du taoïsme, puisqu'il y a un méridien qui est spécialement le méridien des ancêtres, et que c'est l'un des méridiens que généralement on va interroger, que l'on va ausculter, et éventuellement que l'on va soigner en premier. Il y a donc dans toutes les cultures, et nous sommes pratiquement la seule culture, peut-être est-ce l'effet de l'influence monothéiste qui a été la nôtre, mais nous sommes pratiquement la seule culture qui avons pensé que les morts étaient définitivement sortis de notre champ de conscience, ou peut-être plus exactement de notre champ d'inconscience. Et ce que nous sommes en train de redécouvrir, c'est que de quelque manière qu'on l'exprime, alors on peut l'exprimer par la philosophie des esprits, par la philosophie des ancêtres, par la philosophie du mana en quelque sorte qui nous entoure et qui vient s'emparer de nous, mais il y a toujours cette idée que finalement la vie est plus que la vie que nous connaissons, qu'elle est toujours présente et que nous baignons dans un immense océan de vie qui nous entoure. Je dirais que l'autre vie, la vie d'après la mort est même sans aucun doute beaucoup plus importante que la petite parcelle que nous représentons. Et là, bon, évidemment, c'est pas le lieu de dire si on y croit, si on n'y croit pas, si on pense que ça existe ou si ça n'existe pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que c'est une structure absolument fondamentale, apparemment, de l'esprit humain. Et que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, là je vais parler en termes tout à fait freudiens, c'est au retour du refoulé collectif et au retour du refoulé culturel qui a été celui de notre civilisation. D'une certaine manière, les morts, ils allaient au paradis et ils n'avaient plus commerce avec nous. Ben, on revient à cette idée. Mais vous savez, par exemple, lorsqu'on prend la fête d'Halloween, hein, et le succès qu'elle connaît, au-delà évidemment de ses explications marchandes, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée qu'il y a des jours dans l'année où précisément le monde des morts et le monde des vivants rentrent en communication les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'au-delà de l'influence que les morts peuvent avoir sur nous, il y a même des moments où nous y sommes confrontés directement et nous sommes en dialogue direct avec eux. Donc là, il y a une structure, je crois, qui est peut-être de l'ordre de l'illusion, je n'en sais rien, mais une structure qui fait partie intégrante de notre esprit et de notre manière finalement de nous positionner nous-mêmes à l'intérieur du monde et de l'existence.
Les secrets de famille que vous avez pu ainsi aborder, Nathalie Vallée, de quelle nature sont-ils?
Alors, les problèmes d'inceste, par exemple, entre un mère et le frère de celui qui me racontait sa vie. Bon, tout ce qui touchait à la filiation, le père n'est pas le père. Les problèmes de conditions de conception de l'enfant, désiré ou pas. L'enfant qui n'est pas du tout désiré, qui est arrivé par hasard, entre guillemets, il n'y a pas de hasard, mais... Enfin, qui ne s'appelait pas Désiré, en tout cas, ça peut peser lourd aussi. C'est surtout ce genre de secret-là. Parfois aussi, alors je ne sais pas si c'est vraiment du secret, mais ce sont des pans de vie cachés. C'est-à-dire qu'on sait qu'un oncle a été, déporté et qu'il est resté comme ça, un an et demi, deux ans parfois, à l'écart de sa famille, à vivre des choses difficiles. Il en est revenu et cette personne a été dans l'incapacité d'expliquer et de raconter vraiment assez plus ou moins proche qui s'était passé. Donc c'est une forme de secret. Et cet oncle, en l'occurrence, avait fait appel à moi. Et il ne voulait parler que de ça, quoi. C'était ma déportation. Et il m'a, je dirais, presque balancé le récit. Comme ça, c'était d'une violence incroyable. Mais parce qu'il avait plus de 80 ans à l'époque et qu'il avait gardé ça en lui. Avec en plus des phrases qui sont incroyables, comme... vous voyez, j'avais 18 ans à l'époque. C'était le bon temps. Ah, je lui dis, comment ça, c'était le bon temps? Mais oui, c'était le temps des copains, on partageait des choses. C'est plus ça maintenant, voilà. Mais comment dire c'était le bon temps quand on était en déportation? C'est aussi très... Enfin, c'est plus qu'ambivalent, quoi. C'est une souffrance, c'est une douleur.
C'est comme si le temps s'était arrêté.
Oui. Et pour lui, reprendre ça, enfin, c'est... Je pense que ça l'a soulagé, que ça lui a vraiment fait du bien. Après, on a pu élargir un petit peu le récit, mais toute cette période-là... Et puis, c'était aussi évoquer les noms de ses anciens copains, avec qui il était là-bas, qui n'en sont pas forcément revenus, ou qui, en tout cas, sont morts maintenant. C'était pouvoir dire, enfin, pouvoir dire l'indicible. Alors, c'est aussi parce que, depuis des gens comme Primo Levi, on est beaucoup plus dans... On peut raconter ce qui s'est passé à l'époque. Ça commence à se faire, même si tout le monde a un peu de mal avec ça, mais... pouvoir dire l'indicible, pouvoir dire ce qu'on n'a pas pu dire. C'est se soulager, se défaire d'un poids, c'est le poser à côté, c'est se dire, bon, bah, ça n'efface pas ce qui a été vécu, bien sûr, mais je le dis, je me sens mieux, ça encombre toutes ces choses-là, tous ces secrets, tous ces... Oui, ça encombre, parfois ça pourrit à l'intérieur, ça peut créer des maladies, on le sait aussi. Alors évidemment, la population que j'ai, les 80 ans et plus, sont pas très sensibles à tout ce qui est somatique. Bon, c'est pas leur culture non plus, nous on baigne un peu plus là-dedans. Mais ils se rendent bien compte parfois qu'il y a des maladies qui sont déclenchées à des moments clés de leur vie, sur des passages très très douloureux. Parfois ils essayent de faire des petits ponts. J'entends plus parler de hasard et de coïncidence, mais quand je les chatouille un tout petit peu, ah oui c'est vrai, c'est peut-être pas le hasard. Quand je vois là, c'était pas sur une maladie, mais c'est pas un secret non plus, mais c'est étonnant. Trois frères qui épousent trois femmes de familles différentes, les trois s'appellent Antoinette. Alors, je sais pas, renforcement de la fratrie, enfin bon, on peut... Après, il faudrait creuser, hein. Moi, j'ai juste remarqué ça. J'ai dit, tiens, c'est un petit peu étonnant, votre histoire, là.
Est-ce que, justement, au cours du récit qu'ils vous font, des personnes prennent conscience de répétitions familiales, comme ça, de leurs ascendants ou ancêtres même plus lointains?
Oui, ça peut arriver, mais plus sur des événements heureux que malheureux. Donc c'est plus appelé coïncidence ou hasard et ça fait sourire. Mais du coup, ça n'engage pas à réfléchir sur pourquoi cette répétition. C'est même une fierté, la répétition, quand c'est sur un événement heureux. Ah, vous voyez, je suis comme mon père et mon grand-père. D'ailleurs, j'ai le même prénom. J'ai eu aussi dans un récit de vie quelque chose qui m'avait pas mal touchée. Un jeune garçon d'une douzaine d'années va faire sa bar mitzvah. Et la date de la bar mitzvah tombe exactement le jour de la mort de sa grand-mère maternelle qui l'avait élevée et le jour de l'enterrement du grand-père maternel. Quand même des dates clés dans la vie de ce jeune garçon. Et le membre de la famille qui me raconte ça me dit bah, « ça va vraiment être une journée difficile parce que ça va générer tellement d'émotions bah, ». Je dis « vous ne pouviez pas l'organiser à un autre moment ?»« Ah ben non », dit-il, « parce que quand un enfant naît chez nous, à partir de sa date de naissance, on peut tout à fait calculer le jour de sa bar mitzvah. » Il y a un mode de calcul. Et il me dit, ben voilà, ça tombe pile à ces dates-là. On ne peut pas me dire, je sais bien que ça dépend d'un calcul, mais ce n'est pas tout à fait le hasard. On pouvait décaler de 8 jours, après tout, ça ne changeait pas grand-chose.
Danielle, au départ, c'est une femme qui a honte de ses origines sociales. Elle a honte d'être rien, que ses parents n'étaient rien.
Vincent de Gaulle-et-Jacques.
C'est la honte de la pauvreté. Si Danielle, en fait, est venue me voir, c'est parce qu'elle faisait une névrose de classe. Bon. Et puis, elle avait peur d'être folle et donc elle ne voulait pas faire de thérapie parce que pour elle, faire la thérapie, c'est être folle. Et donc, elle dit « je ne suis pas folle ». Je suis pas folle, pourquoi? Et elle était plus sociologue, si on veut, parce qu'en disant, non, tout ça, c'est du Bourdieu, c'est Bourdieu qui explique ça. Un Bourdieu explique très bien que, il y a des conflits d'habitus, hein. Il parle des habitus déchirés, c'est-à-dire on est déchiré, en fait, par le fait d'appartenir. Alors, elle devient bonne élève, hein, et elle va faire des études, elle va avoir une maîtrise, etc. Et puis, elle se coupe de ses parents, elle devient un peu une étrangère par rapport à ses parents, et elle vit de tas de culpabilités et de honte par rapport à son père, par rapport à sa mère. Et on voit petit à petit qu'il y a autre chose que la honte sociale. Parce qu'elle ne va pas bien, elle est inhibée, et puis on sent qu'il y a un secret. Il y a un secret qu'elle ne veut pas dire. Et en fait, le secret, c'est une histoire qu'il y a souvent dans les familles, c'est qu'est-ce que mes parents ont fait pendant la guerre? Bon, et elle découvre, mais elle ne sait pas trop, que son père aurait été collaborateur. Et ça la met dans une ambivalence terrible, parce que son père a essayé de lui en parler quand elle était plus jeune et elle n'a rien voulu entendre. Et on voit qu'il y a un nœud entre cette horreur que lui fait son père. Elle ne veut pas être la fille de cet homme-là. Et que ce père-là, bon, pris dans la tourmente de ces événements-là, est devenu malade. Et il a été hospitalisé en psychiatrie. Et donc, elle avait honte aussi de son père qui était violent et qui était paranoïaque, qui était un peu fou. Donc, la honte sociale, la honte de la maladie mentale de son père, mais derrière, la honte de qu'est-ce que mon père a fait pendant la guerre. Et donc là, on voit que petit à petit, dans le déroulement du récit, que ces différentes composantes vont se lier entre elles et qu'elle mettra du temps hein, pour pouvoir se dégager de cette histoire parce que tout ça fait nœud. Et en quelque sorte, elle voulait s'en dégager en mettant ça de côté. Mais on ne peut pas mettre ça de côté puisque c'est son histoire. Et donc, il faut aider les gens à démêler en quoi son histoire est habitée par l'histoire des autres. C'est-à-dire, mon histoire, c'est aussi l'histoire de ma mère et de mon père. Or, il y a des choses que je ne veux pas. Je ne voudrais pas être ça. Et c'est ce que j'appelle une impasse généalogique, c'est-à-dire, je ne veux pas être ce que je suis. Je suis bien la fille de cet homme et de cette femme-là, et je ne veux pas être comme eux. Et donc, rien ne l'oblige à être comme eux. Mais en même temps, elle est leur fille. Donc, ce que j'essaye de faire dans ces espaces, c'est d'aider les gens à remettre les choses en ordre. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la culpabilité inconsciente, des enjeux oedipiens? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'histoire familiale, des relations affectives et des conflits qui peuvent exister? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'histoire sociale? Qu'est-ce qu'a été l'histoire du père? Et ce père-là, donc, à la fois, c'est un fait qu'elle ne peut pas choisir d'être la fille d'un autre, comme dans le roman familial. Et elle a eu le fantasme du roman familial, c'est-à-dire de rêver, petite fille, qu'elle était l'enfant de, pas ses parents-là, mais d'aristocrates, de gens bien, de gens qui étaient cultivés, de gens qui habitaient dans un château, etc. Mais en fait, elle ne peut pas changer l'histoire. Et donc, elle s'était coupée de ses origines parce qu'elle voulait se couper de son père et sa mère. Et en même temps, dans ce travail, elle redécouvre qui étaient ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. Et elle découvre que ces gens-là, ben, ils étaient bien. Et donc, elle restaure quelque chose de l'histoire de sa famille en retrouvant effectivement qui étaient ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, et qu'elle peut être fière d'être la petite fille de ces gens-là. Et donc, elle peut retrouver une assise dans son histoire qui va lui permettre de retrouver une assise narcissique et qui va lui permettre de voir que, dans le fond, elle est l'enfant, non pas d'un homme et d'une femme seulement, elle est l'enfant de deux lignées, comme nous tous. Hein, c'est ça le sens de l'individu et le produit d'une histoire. C'est que je suis, moi, à un moment donné, le trait d'union entre deux lignées, la lignée paternelle, la lignée maternelle, et que c'est pas seulement l'histoire de mon père et de ma mère, mais aussi des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Et que quand je remonte à quoi? À quelque chose qui est l'histoire de l'humanité. Et que ma vraie histoire, c'est d'être un descendant de l'humanité.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war in des Lebens.
Ce que Jung entend à travers l'inconscient collectif, c'est dur, il l'écrit à la fin de sa grande étude alchimique, le Mysterium Cognoxionis, c'est le nom moderne psychologique de ce que, dans la philosophie ancienne, philosophie grecque particulièrement, on appelait l'âme du monde.
Michel Cazenave.
Là, nous sommes dans une travée platonicienne absolument évidente. Or, si l'âme du monde existe, telle qu'il la conçoit, telle qu'il la repense, je dirais, en termes modernes, et c'est d'ailleurs ce qu'il écrit à beaucoup de reprises, cette âme du monde, ou cet inconscient, moi j'aimerais beaucoup plus dire un inconscient universel, si on veut dire, ou un inconscient structural, enfin faudrait s'expliquer sur les termes, mais cet inconscient est hors du temps et hors de l'espace. D'ailleurs, il rejoint l'idée de Freud, mais d'une manière tout à fait différente. Ce qui veut dire que cet inconscient est répandu sur l'ensemble du temps, ou plus exactement, il est simultané à l'ensemble des temps, à l'ensemble des périodes. Donc il est en même temps simultané à l'ensemble des générations. Et tout ce qui est vécu du point de vue de l'inconscient le plus profond par un membre d'une famille est engrammé, si l'on peut dire, et donc rechailli comme spontanément dans la lignée, dans les descendants, étant entendu que cela veut dire, par exemple, que nous sommes en réalité, et du point de vue de l'inconscient, totalement simultané, totalement contemporain de notre ancêtre ou du fondateur de notre lignée. C'est-à-dire c'est comme si le temps s'annulait d'une certaine manière.
Oui, le temps s'annule, mais pourtant c'est à travers les générations qu'un problème peut justement se focaliser, se cristalliser et devenir invivable pour une génération qui succède aux précédentes.
C'est là tout le paradoxe des choses, mais vous savez qu'on retrouve par exemple en physique moderne, lorsque Einstein déclare que le monde ne devient pas, mais qu'il est en tant que tel, ce que comportent d'ailleurs les équations de la théorie de la relativité, nous avons tendance à dire, bah oui, mais nous savons bien pourtant que nous naissons un jour, nous mourrons un autre, et puis nous décrivons le temps entre les deux. Einstein dit oui, mais parce que vous parcourez une ligne de temps d'un univers qui en réalité est déployé dans sa totalité. Dans sa notion d'inconscient, Jung, en gros, c'était pas pour rien qu'il a été le collègue de Einstein à Zurich et qu'il l'a pas mal fréquenté au début du XXe siècle, a à peu près la même conception. C'est-à-dire qu'il y a un non-temps qui est simultané effectivement à toutes les époques, à toutes les générations, et il n'empêche que nous avons quand même à décrire ce que on appellerait ces lignes de temps. Et que donc il y a des sortes de coagulations qui se font avec ce phénomène bien connu aujourd'hui, qui est effectivement le problème qui n'est pas réglé, va passer généralement à la génération suivante, ou tout au moins à un ou des représentants de la génération suivante, et du fait même qu'il n'est pas réglé, en s'aggravant de plus en plus. Vous savez, c'est la fameuse phrase qu'on répète toujours en psychanalyse, c'est la névrose des parents qui prépare la psychose des enfants. Or, c'est exactement cela que nous retrouvons. Mais il faut avoir conscience aussi que c'est quelque chose que l'humanité a toujours su. Nous l'avions oublié à travers les développements ultra-rationalistes de la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, mais pratiquement dans toutes les civilisations, par exemple, justement à travers le culte des ancêtres, etc., ou ce qu'on retrouve dans les cultes de possession en Afrique, c'est généralement comment nous sommes revisités tout le temps par l'esprit de nos ancêtres.
Ce qui est intéressant dans ce type de travail, c'est qu'à un moment donné, les participants se rendent compte que quand on dit « c'est mon histoire », ils inversent les choses. Ce n'est pas moi qui possède mon histoire, c'est mon histoire qui me possède. Et donc, d'une certaine façon, en faisant ce travail de dépossession, de recul par rapport à sa propre histoire, ils découvrent effectivement qu'ils sont les descendants d'autres. Et Daniel, par exemple, dit à un moment donné, par rapport à un de ses ancêtres qui aurait disparu en mer, comme lui permettant de relier la mer et la terre. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle se relie elle-même à quelque chose qui n'est plus son histoire avec tous ces conflits qu'elle a eus avec son père et sa mère, mais qui est l'histoire des hommes et des femmes, l'histoire de la terre et de la mer. C'est une très très belle image. C'est-à-dire qu'on est tous descendants de ce mariage de la terre et de la mer. Et donc on peut évoquer ce que Freud appelait le sentiment océanique, c'est-à-dire le fait que ce qui est fondamentalement thérapeutique, c'est quand on retrouve l'humanité en soi et qu'on se retrouve un parmi d'autres dans ce qu'on appelle l'humanité. Et ce n'est pas thérapeutique au sens de chacun personnellement essayer de régler ses conflits. C'est thérapeutique parce que ça nous lie les uns et les autres et qu'on retrouve ce qui est l'essence même du lien social, du lien entre les individus, du lien entre les mères et les pères, les parents et les enfants, du lien entre la terre et la mer.
La psychogénéalogie ou la transmission de la mémoire familiale. Faire de sa vie une histoire. Avec Michel Cazenave, Vincent de Goléjac, Nathalie Vallée. Groupe de réalisation Michel Gassic, Patrick Muller, Jean-Louis Delongle, Pascal Bénard, Claude Giovanetti. Une émission de Bénédicte Niogret.
C'était la cinquième et dernière partie de cette série consacrée à la psychogénéalogie, bilan et avenir, une émission diffusée le 27 août 2005.